Bonsoir. Adoption hier dimanche par le Parlement du projet de loi portant modification de la loi électorale. Parmi les innovations, note le respect de la parité sur les listes électorales, la majoration de la caution qui passe à 100 millions de francs congolais pour la présidentielle et 500 000 francs congolais pour la députation nationale. Comment analyser les innovations contenues dans ce projet de loi ? Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Grégoire Mirindi, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UNC allié à l'Assemblée nationale. Maître Mirindi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur, madame la journaliste.
François Nzikouye, député national de la majorité présidentielle et membre du groupe parlementaire PIPERDA à l'Assemblée nationale. Monsieur Nzikouye, bonsoir.
Bonsoir, Kéline Kouté.
Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le projet de loi électorale révisé a été enfin voté par les députés dimanche 25 janvier 2015 après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. Les élus du peuple ont opté, compte tenu de la tension qui a prévalu dans le pays, pour la suppression de l'alinéa 3 de l'article 8 controversé. Mais quelles sont les innovations contenues dans ce projet de loi électorale révisé? La réponse avec vous, Beri Louchaka.
Sur la liste des innovations, la loi met l'accent sur l'aspect genre et la promotion de la personne vivant avec handicap. On veut à cet effet que le quota de la femme soit respecté non seulement dans l'établissement des listes électorales, mais aussi dans l'attribution des sièges. C'est ce que l'on peut lire dans l'article 13 de cette loi. La nouveauté, c'est aussi la majoration des frais de dépôt des candidatures à tous les niveaux des élections. L'article 104 fixe les frais de dépôt pour le candidat président de la République. Cette caution est désormais à 100 millions de francs congolais, soit environ 1 million de dollars américains non remboursables. Le gouvernement soutient que c'est pour éviter des candidatures fantaisistes. Il faut ajouter à cette liste un critère d'éligibilité pour les candidats à la présidentielle. Selon l'article 103, le candidat doit avoir la nationalité congolaise d'origine, être âgé d'au moins 30 ans, avoir un diplôme d'études universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Aussi, la loi prévoit le renforcement de la sanction pénale à l'endroit de quiconque tenterait d'altérer les résultats pour ne citer que ces innovations. Des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de servitude pénale et d'une amende d'1 million de francs congolais pour tout candidat qui souscrira une déclaration inexacte sur son éligibilité comme le précise l'article 98. Et cette liste des innovations n'est pas exhaustive.
Merci Iberi Louchaka. La communauté internationale salue ce vote de la loi électorale par le Parlement. Dans un communiqué publié dimanche soir, Martin Kobler indique que le Parlement congolais a, je cite, démontré la détermination commune des acteurs politiques de préserver la paix sociale en RDC. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a ajouté que la sagesse avec laquelle les parlementaires ont trouvé une solution conciliant les différentes positions, tout en respectant la Constitution, notamment les délais électoraux, est remarquable et salutaire. Martin Kobler s'est réjoui enfin de la meilleure représentation des femmes garantie par cette loi. Excusez-moi, François Nzikouye, hormis les innovations que notre confrère vient de lire, quelles sont les autres innovations contenues dans cette loi électorale?
Kelly, je vais devoir y répondre, mais je voulais d'abord fixer une question qui a été plutôt mal présentée. En matière de représentation des femmes, il n'est pas dans cette loi des dispositions qui fixent l'attribution des sièges aux femmes. La seule avancée qu'on a pu obtenir, c'est qu'il y ait une représentation paritaire hommes et femmes et de la promotion des personnes handicapées sur les listes. Mais encore que cette avancée, elle est très relative et discutable dans la mesure où l'alinéa suivant dit ceci, la non-réalisation de la parité homme-femme ou la non-présence d'une personne avec handicap ne constitue pas un motif d'irrécevabilité de la liste concernée. Ça veut donc dire tout et rien. Ça veut dire qu'on ne garantit pas vraiment le droit de la femme. En fait, on lui donne les mêmes chances de se battre avec les hommes, mais il n'y a pas une discrimination positive. Rien n'est garanti que dans ces combats
acharnés... Donc on ne tient pas compte de la parité.
Non, en fait, on en tient compte simplement dans le respect de l'article 11, 13 et 14 de la Constitution. Ça veut dire qu'on donne les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes de se battre à armes égales. Et que les meilleurs l'emportent. Mais on ne donne pas des avantages particuliers qui étaient pourtant proposés dans les projets de loi, mais qui ont été élagués par l'effet d'un comportement, je peux dire, discriminatoire des hommes qui n'ont pas voulu donner un peu plus de place aux femmes.
Alors, selon vous, François Nzekouye, c'est une avancée ou une régression?
Par rapport à cet aspect, c'est le statu quo en réalité. Rien n'a avancé dans les combats pour les genres. Parce que les souhaits que nous avions émis, c'était de respecter les traités et accords signés au niveau international qui voulaient qu'on puisse réserver 50% ou en tout cas les tiers des sièges aux femmes en faisant en sorte qu'il y ait une compétition exclusivement féminine. Cela a été complètement refusé par une grande majorité des députés nationaux et des sénateurs. Et donc nous restons dans la situation où femmes et hommes, nous devons nous battre à armes égales et que les meilleurs l'emportent. Et donc la situation que nous connaissons aujourd'hui à l'Assemblée nationale où nous avons les 10% seulement des femmes à l'Assemblée nationale risque de perdurer avec cette loi. Alors, et donc pour répondre à votre question sur les autres avancées, il y a plusieurs avancées. La première que je peux citer, c'est le fait que la CENI est aujourd'hui tenue de communiquer les procès-verbaux des résultats des votes sur simple demande. Vous savez, madame, que la guéguerre terrible que nous avons connue en 2011 en matière de contestation électorale était le fait de disposer des procès-verbaux. Beaucoup de personnes qui croient avoir été élues aujourd'hui ne sont pas à l'Assemblée nationale, tout simplement pour n'avoir pas pu obtenir ces fameux papiers. Aujourd'hui, la loi dispose que sur simple demande, on peut l'obtenir. Et le deuxième aspect sur lequel les commentateurs n'ont pas été très détaillants, c'est les sanctions. Il y a beaucoup de sanctions qui sont contenues dans cette loi pour tout acteur de tripatouage des résultats électoraux ou du déroulement des scrutins, des dispositions qui vont à l'encontre des personnes, par exemple, simplement, qui peuvent dire leur choix. Par exemple, je suis sur une file, je dis, voilà, je vais voter pour Kéline Couté. C'est une sanction déjà. Et pire, ou mieux, si je peux dire, les agents de la CENI, qui induisent en erreur une personne qui ne sait pas lire, qui veut voter pour Mirindi et on donne le nom d'Nzekouye, par exemple, cette personne est passible de peine de prison. Les agents des compilations qui transforment les résultats de vote en faveur ou en défaveur d'un candidat peuvent aussi aller en prison. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi les candidats qui troubleraient l'ordre public, les personnes qui amèneraient des boissons alcoolisées sont aussi passibles des sanctions. Il y a une autre innovation qui n'a pas été souvent commentée, c'est cette fois la participation des étrangers à l'élection présidentielle. Vous vous rappelez que les Congolais de l'étranger ont souvent réclamé leur participation au vote et on va y aller progressivement pour cette loi. Il est disposé que les Congolais de l'étranger puissent voter en présentant simplement leur passeport ou une carte d'identité dans nos consulats et ambassades à l'étranger.
En 2016 déjà, ça...
En 2016 déjà, oui, 2016. Absolument, à partir de 2016. Avant 2016, les élections qui sont prévues ne concernent pas les chefs de l'État. C'est les élections locales, provinciales et sénatoriales qui doivent se passer en priorité. Mais en 2016, ils pourront déjà participer au vote.
Alors, pour ne pas vous arracher la parole, est-ce que vous pensez que toutes ces innovations vont rendre le processus électoral plus transparent?
En tout cas, tel est le souhait, parce que j'étais un peu inquiet quand les documents étaient votés au Sénat, où on avait élagué toutes les dispositions qui tendaient à faire en sorte que les quotients électoraux soient basés sur le nombre de la population. C'est une question fondamentale où vous avez remarqué que les circonscriptions électorales qui sont surpeuplées, mais qui ont très peu de sièges. C'est le cas, par exemple, je vais vous citer à Massissi. En 2006, ils avaient 7 sièges, mais en 2011, ils en ont eu 6. Pourtant, la population a augmenté. C'est des injustices qui ont été relevées. Merci. Mais heureusement, la commission paritaire mixte, Assemblée nationale et Sénat, ont rétabli cette question pour ce qui concerne la répartition des sièges. Mais il reste un hic, c'est celui de l'identification des Congolais, parce qu'on estime que les Congolais doivent voter et non les étrangers.
On va y revenir, François Nzikouye, Maître Grégoire Mirindi. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez toutes ces innovations dans ce projet de loi, ce projet de la loi électorale?
D'entrée de jeu, je salue au passage les collègues Nzikouye, François, ainsi que le professeur Félix Kabamba, mes co-débatteurs. Je voudrais, madame, vous dire que nous, au niveau de l'opposition, nous avons pris l'option de ne pas participer aux travaux concernant l'examen de ce projet de loi. Et cela pour plusieurs raisons. Il y a, sur le plan formel, un problème. Comme vous le savez, la CENI elle-même, c'est une institution citoyenne. Deux, la loi ou les lois qui organisent ou par lesquelles la CENI intervient sont des lois citoyennes. Ils ne sont pas des lois de l'opposition, ni de la majorité, ni de la société civile. Ce sont des lois qui concernent tout le monde. Donc, il y a des choses que nous aurions pu organiser en amont pour avoir la même compréhension du projet qui nous a été soumis par le gouvernement. Cette approche a été balayée alors que lorsque nous avions adopté la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, nous avons recouru à des pourparlers qui ont abouti à un consensus. Même la mise en place du bureau de la CENI actuel, c'est le fruit des consensus, en dépit du fait qu'il y ait des contestations par rapport à l'un ou l'autre membre. C'était ça. Maintenant, quand la loi, le projet ici nous est soumis, c'est comme si c'était un défi. Il y a des dispositions sur lesquelles on devait débattre, et d'autres qui étaient presque élus par ceux qui nous ont proposé les textes. Et là, c'est inacceptable dans un organe délibérant. Nous sommes élus pour faire ce genre de travail. Voilà comment, sur le plan formel d'abord, nous, de l'opposition, nous avons trouvé qu'il était inacceptable que dans une loi citoyenne, nos amis de la majorité nous imposent uniquement et exclusivement leur point de vue. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a des démarches que nous avons faites en interne, mais qui n'ont pas abouti. Il y a eu aussi des problèmes sur le plan substantiel, donc sur le plan du fond. Comme vous le savez, il y a l'article 8 et l'article 115, alinéa 3, qui contenaient des dispositions ou des bouts de phrases qui conditionnaient la tenue des élections par l'identification, n'est-ce pas, et par disons, les données démographiques et l'identification de la population. Or, comme vous le savez, et cela a commencé depuis longtemps.
Mais cet article a déjà été élagué.
Oui, a été élagué, mais le texte que nous lisons ici, vous savez que ce texte a été voté hier, sans l'avoir entre les mains. Les collègues députés, ils ont légiféré le rapport. Nous tous, nous découvrons par nos recherches personnelles ce texte. Vous l'avez, je sais, vous l'avez, mais hier, ils l'ont voté par la foi. Ils l'ont voté par la foi.
Mais vous étiez à la plénière d'hier?
Moi, j'étais au palais du peuple, mais j'étais en plénière.
Et comment vous savez que vos collègues députés n'avaient pas le projet
de loi? Vous avez suivi vous-même hier la plénière. Ils ont lu les rapports qui étaient encore plus mouillés que même les projets de loi lui-même. La loi n'a pas été distribuée. Je parle sous son contrôle. Hier, il peut poser la question à tous les députés qui étaient là. Ils ont voté en fermant les yeux, mais la loi n'a pas été distribuée. Quiconque peut avoir ce texte, il doit avoir eu d'autres, dans ces façons, comme c'était quand même un texte qui était harmonisé au niveau du Sénat.
Alors, puisque la loi déjà a été adoptée par les parlements, on parle des innovations, comment vous analysez ces innovations? Est-ce que ça vous gêne, les apports dans cette nouvelle loi? Comment vous les analysez, en fait?
Vous savez que cette loi n'était pas nécessaire pour organiser les élections. Il y a des apports qui ont été apportés, en fait, mais qui étaient mineurs, qui ne pouvaient pas, en fait, justifier la tenue d'une session extraordinaire. Parce que, figurez-vous, ce texte a été soumis, du moins, la session extraordinaire a été convoquée spécialement pour voter ce texte. Mais est-ce que c'était nécessaire? Non, c'était nécessaire justement parce que les pièges étaient dans l'article 8 et l'article 115. Maintenant, les innovations. Moi, je vais vous dire que même jusqu'à présent, en tout cas, ça n'engage que moi, l'article 115 pose toujours problème.
Expliquez-vous, ça pose problème.
Je vais vous expliquer, ça pose problème. Parce que si vous lisez cet article 115, vous constaterez en fait que, encore une fois, au point 1, on nous dit, je peux lire peut-être l'alinéa, le nombre de sièges à l'Assemblée nationale est de 5 ans. Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes. 1. Un quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total d'habitants de la République démocratique du Congo par le nombre total de sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Nombre total d'habitants. Ça vous dit quoi? Ça, c'est l'ONIP. Qui va nous donner les chiffres exacts du nombre total des habitants? Ce n'est pas la CENI, c'est l'ONIP. Autrement dit encore, nous sommes devant un conditionnement, n'est-ce pas, des élections par les résultats de l'identification. Et même au niveau du Sénat.
Et donc, pour vous, le problème demeure?
En tout cas, pour nous, ces dispositions. Je voudrais dire tout simplement, dans son esprit, hein, moi je suis de la PAJ, sur le plan logistique, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que nous, députés nationaux, et tous les autres qui seront élus ou qui sont là, ils risquent d'être là, jusqu'à ce que l'ONIP rende disponible, encore une fois, le nombre total d'habitants. Quand on dit nombre total d'habitants, ce n'est plus des électeurs, c'est tout des enfants mineurs, des majeurs, c'est tout le monde. Vous voyez le problème? Maintenant, c'est le nombre total d'habitants, nous n'aurons quand?
Vous parlez du recensement en quelque sorte, de la population?
Oui, nous l'aurons quand? Total, parce que là, c'est total. En fait, ils ont élagué, mais ils ont trouvé encore d'autres formules pour maintenir les statico dans les textes. Et d'ailleurs, je suis ravi qu'ils constatent que même pour la parité, parce que vous parlez des innovations, les promesses des campagnes qui ont été faites n'ont pas été respectées. Donc, là encore, le problème est là.
Merci.
Quand vous allez, s'il vous plaît, madame.
Je vous redonne la parole. On a un chrono, le temps pour moi dépassé. La parole au professeur Félicien Kabamba, qui est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, quelle est votre lecture de ces innovations contenues dans ce projet de loi?
Je vous remercie. J'estime que il n'y a pas de loi parfaite, mais chaque loi doit être située dans son contexte historique et politique. Et l'histoire de la démocratie congolaise, et surtout l'histoire de notre constitution, elle est encore très récente. Et quand vous regardez pas plus tard qu'il y a une quinzaine d'années, eh bien, nous allons situer cette histoire dans un conflit armé qui a déchiré le pays, qui a dévasté le pays, de sorte que la plupart des forces politiques en présence aujourd'hui ont une origine belligène. Et elles se sont entre-déchirées. Un accord est sorti, qu'on a appelé accord de San City, et cet accord nous a donné la possibilité d'avoir la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que désormais, les règles qui doivent régir l'ensemble d'acteurs doivent être des règles acceptées, parce que l'origine de notre démocratie est une origine belligène. Et personnellement, j'étais mal à l'aise de voir comment les acteurs politiques s'entre-déchiraient autour de textes. Je me disais que là, véritablement, les acteurs n'ont pas compris d'où ils viennent. Cette, à mon avis, cette méconnaissance d'une histoire aussi récente me semblait dangereuse. Il est vrai que la loi qui a été proposée dans un contexte préélectoral. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Aujourd'hui, on l'a sous les yeux. Il faut l'analyser, il faut la décortiquer, il faut trouver ses points forts et ses points faibles. Mais je peux vous dire qu'une loi parfaite n'existe pas. Cette loi, elle a des points forts, elle a des points faibles.
Et selon vous, vous l'avez parcouru quand même, professeur ?
Je dois dire que, comme venait de le dire l'honorable, cette loi n'a pas encore beaucoup circulé. Et donc, on a eu une première mouture. Cette mouture a connu beaucoup de retouches. Et donc, j'ai eu la loi quelques minutes avant de venir ici. Alors, quelques minutes, donc je l'ai parcourue de manière assez rapide. Je n'ai pas eu à la lire systématiquement avant de pouvoir l'analyser ici.
Alors, professeur, l'honorable Mérine estime qu'on pouvait se passer de cette loi électorale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est vrai
qu'on n'avait pas besoin de nouvelles lois électorales, on pouvait se contenter de celles de 2006
et de... en 2011.
Ouais.
Bien sûr, il y avait une loi qui existait. Et cette loi, personne n'a dit qu'elle n'était pas en charge, qu'elle n'était pas en mesure de prendre en charge l'organisation des élections. Personne ne l'a dit. Mais les arguments qui avaient été avancés allaient dans le sens de l'adapter au contexte. Et donc, il faut donc entrer à l'intérieur de la loi, pour voir quelles sont les dispositions qui contextualisent cette loi. Et je crois que c'est ça même l'objet de ce débat d'aujourd'hui. Il y a une première, un des premiers mérites qui est donné à cette loi, c'est le mérite d'avoir mis la question du genre à l'avant-plan. Mais comme j'ai eu à vous le dire, les forces qui structurent le champ politique congolais aujourd'hui ont une origine belligène. Et dans la plupart des cas, ces mouvements belligènes étaient dominés par les hommes. Et quand les accords de San City ont été signés, on a vu que véritablement le pouvoir s'est partagé entre les hommes. Il n'y a pas de rébellion tenue par les femmes.
Alors, professeur, parmi les innovations, il y a par exemple la majoration de la caution qui passe à 100 millions de francs congolais pour la présidentielle et 500 000 francs congolais pour la députation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour cette loi, c'est pour décourager les candidatures fantaisistes.
Disons que cet argument de décourager les candidatures fantaisistes n'est pas une argumentation qui vient de la RDC. Je crois que la RDC l'a puisé ailleurs, et en particulier au Sénégal. Le premier, c'était Abdoulaye Wade, qui avait fait passer cette caution électorale à 65 millions de francs CFA, ce qui représentait à l'époque 140 000 $. Et l'argument avancé par le groupe d'Abdoulaye Wade, c'est que cette augmentation de la caution permettait de faire face ou de combattre les candidatures fantaisistes. Ça, c'est le gros mot qu'ils avaient sorti. Mais qu'est-ce qu'on appelle candidature fantaisiste? Et c'est là que le contenu véritable d'une candidature fantaisiste n'a pas été donné. Est-ce qu'une candidature est fantaisiste parce que la personne candidate n'a pas de moyens, ce qui ne serait pas le cas? Est-ce qu'une personne peut avoir une légitimité, mais n'est pas être fortuné? On a vu de président venir d'en bas, être porté par la population et être élu finalement sans véritablement avoir les moyens. Mais au-delà de ça, il y a aussi une autre question que la majorité pose, qui est, à mon avis, qui ne manque pas de quintessence. Est-ce que l'espace politique doit être un véritable bordel? C'est-à-dire que n'importe, on n'a pas besoin d'un espace politique bordélique. Ça, c'est un argument qu'ils avancent.
Mais certains observateurs estiment aussi que c'est une loi discriminatoire.
Bien sûr, le fait de mettre à cette hauteur-là le cautionnement, eh bien, je vous assure que ce n'est pas accessible à tous les Congolais. Il faut être un Congolais d'une certaine classe, et c'est là que les gens parlent de l'élément censitaire qui a été introduit. Il faut être d'une certaine classe, il s'agit bien sûr de la classe bourgeoise ou dirigeante, pour avoir accès à...
Merci, professeur François Nzekouye. Une loi discriminatoire, qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous demandez à une personne qui a cette ambition de devenir président de la République 100 millions de francs congolais, presque un million de dollars pour déposer sa candidature et 500 000 francs pour les députés?
Oui, je crois qu'il faut comparer ce que nous avions avant et ce que nous avons aujourd'hui pour avoir une idée claire. Et pour les députés nationaux, l'élection à laquelle nous avons concouru Mirindi et moi, on payait 250 dollars. Mais nous devons savoir que c'est par liste. Et c'est les partis politiques qui sont censés les payer en réalité. Et donc, un parti politique qui a pu payer 250 dollars peut payer 500 dollars. C'est pas si terrible. Un candidat président de la République, ce n'est pas nécessairement lui qui paye la caution. C'est ce qui les porte, comme l'a dit Sylvia Tibangu ou Kizenga. Quand il a été candidat, ce n'est pas lui qui a payé sa caution, ce sont les membres de son parti. Il faut avoir des gens derrière vous pour pouvoir dire que vous êtes représentant du peuple. On ne vous demande pas de sortir l'argent de votre poche. Et donc, c'est un argument qui ne tient pas debout, dire que c'est discriminatoire, c'est censitaire. Il n'y a rien de censitaire. Un homme politique qui veut vraiment aspirer à un poste de responsabilité de ce niveau-là doit avoir des gens derrière lui. Et si on demande à chaque militant de cotiser un dollar, il peut être à mesure de payer la caution. Mais moi, je voulais, si vous le permettez, Kelly, réagir un peu à certains propos de mon collègue Mirindi, qui dit que eux, opposants, n'ont pas voulu participer au vote du loi, parce qu'il y avait des problèmes de forme et de fond. Et au Sénat, il n'y a pas d'opposants. Les opposants au Sénat ont participé au débat, ils ont exprimé leur point de vue, et leur point de vue a été écouté. Il sait très bien qu'il n'a pas été élu pour pouvoir manifester dans la rue, ni pour encourager des badauds au pillage. Ils ont été élus pour qu'ensemble nous réfléchissions. Et il le sait pertinemment bien qu'au Parlement, il arrive très fréquemment qu'une idée vienne de l'opposition et puisse être acceptée par la majorité. Et donc, c'était une irresponsabilité de la part des députés de l'opposition. Et ils ont bien eu une bonne leçon de la part de leurs collègues opposants au Sénat qui leur ont démontré qu'en faisant leur travail pour lequel ils ont été élus, ils peuvent arriver à des résultats plutôt que de faire l'école buissonnière comme...
Alors, il y a souvent aussi un autre problème, c'est par rapport à l'article 115 de la loi électorale.
Oui, Kelly. L'article 115, quelle est leur bataille? Il faut vous rappeler. J'ai suivi les débats qu'il y avait ici avec Mayo et Ngoï. Qu'est-ce que Mayo disait qui est de son parti? Leur problème, ils ne veulent pas que Kabila soit encore candidat. Est-ce qu'ils peuvent me dire que dans cette loi, il y a une disposition qui permettrait à Kabila d'être encore candidat? Non. Est-ce que l'on dit que parce
peut-être
que
le quotient électoral...
Je vais vous répondre. Le fait de dire que le quotient électoral sera fait sur base de la population, c'est une volonté commune de nous tous, y compris eux, parce qu'il vient de dire qu'il n'y avait pas nécessité de la loi. Il oublie que nos recommandations sont contraignantes. Lui et moi, députés nationaux, le 5 juillet 2012, nous avons formulé des recommandations au gouvernement et ensemble à la classe politique pour 1. Changer la direction de la CENI. Nous l'avons fait. 2. Avoir une nouvelle loi électorale. Nous venons de l'avoir. 3. Faire un recensement et l'identification de la population. Ils y reviennent aujourd'hui. Pourtant, à l'unanimité, nous avons voté ces dispositions avec eux.
Mais par rapport à l'article 115,
ça veut dire
qu'il y aura recensement?
Le recensement n'est pas interdit. L'ONIP fera son travail aujourd'hui ou demain. Mais ce qui est dit, c'est que l'ONIP présentera à la CENI les données disponibles à la date où la CENI décide d'organiser les élections. Si les données... dont dispose
l'ONIP. Mais ce n'est pas une condition pour organiser les élections.
Ce n'est pas une condition nulle part. Il peut me le dire. À aucun endroit, on a dit que pour organiser les élections, il faut que les recensements aient lieu. Nulle part dans la loi qui me donne l'article qui le dit. Donc l'article 15 ne légifère pas nécessairement pour aujourd'hui. C'est une loi qui est faite pour durer. Quand l'on dit que le quotient électoral devra être fait de cette manière-là, à l'impossible, si aujourd'hui la CENI décide d'organiser des élections et que l'ONIP n'a pas encore fini son travail, logiquement, il va devoir tenir compte des données disponibles, des estimations éventuelles qui existent, parce qu'il ne faut pas dire non plus que les services d'état civil ne font aucun travail dans notre pays. Les données existent. Pourquoi disons-nous aujourd'hui qu'en RDC, il y a 80 millions d'habitants? Nous le disons.
Pourquoi? Parce que cette donnée-là, elle existe. Donc, il ne faudrait pas donner l'impression que aujourd'hui cela pose problème. Et au pire des cas, merci. Je vais terminer par là, au pire des cas, si cela était une condition pour ce qui concerne les députés, rien n'est dit que l'ONIP n'est pas en mesure de boucler son recensement avant 2016. Parce qu'en Afrique du Sud, ils ont fait un recensement qui n'a duré que 6 mois. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de prêter les intentions. Et j'ai dit, les derniers pires cas, si jamais on n'y arrive pas et que c'est une condition pour ces conseils des députés nationaux, on ne doit pas se plaindre
outre mesure
parce que les sénateurs sont encore là 3 ans plus tard.
Merci François Zekoué. Réaction, Maître Mirindi.
Je voudrais inviter les collègues à respecter le peuple congolais. Il ne peut pas qualifier tous ceux qui ont marché sur l'étendue de la République de Bado. Encore que c'est l'opposition, ce n'est pas moi qui les invitais à manifester. Même chez lui, dans sa circonscription, on a marché. Dans sa ville, il y a eu ville morte. Donc nous avons été bloqués dans nos institutions. Nous avons été bloqués. Nous étions de bonne foi. Nous sommes bloqués. Notre patron, c'est qui? Nous, Élie. C'est le peuple. Nous sommes allés faire rapport au peuple. Vous nous avez donné mandat de faire ça et ça et ça. Mais là où nous avons envoyé, nous sentons que ça n'ira pas cette fois. Les autres fois, nous négocions, nous parlons, mais ici, nous sommes systématiquement bloqués. Alors, nous disons au peuple, bon, comme nous sommes bloqués, voilà la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Et la peuple, le peuple s'est pris en charge.
On peut revenir sur les innovations, Maître Mirindi.
Non, attends que je vide ces arguments par rapport
non,
à...
Non, on n'a pas beaucoup de temps. L'émission d'aujourd'hui...
Non, c'est mes minutes quand même.
Oui, mais on parle des innovations contenues dans ce projet de loi, Maître Mirindi.
Non, c'est ça, c'est... Oui, allez-y.
Alors, je vais poser une question par rapport à une autre innovation. Je vais ajouter à la liste des innovations les critères d'éligibilité pour les candidats à la présidentielle. Selon l'article 103, le candidat doit avoir la nationalité congolaise d'origine, être âgé d'au moins 30 ans, avoir un diplôme d'études universitaires ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique.
Madame, vous savez, il y a des choses ici qui sont à essayer de mesurer. Je prends juste le premier point, nationalité congolaise d'origine. En droit, quand on retient une chose, on exclut une autre. Cette loi, cette disposition-là, déjà, elle est discriminatoire. Elle va poser problème. Par quel système on sera les Congolais d'origine? On va remonter les arbres généalogiques des gens? On va utiliser le système d'ADN pour savoir qui est d'origine et qui ne l'est pas? Pourquoi cette innovation n'a pas été posée en 2006? Nous avons révisé la loi électorale en 2011. On n'a pas posé, en fait, cette condition dans la loi électorale. Ça pose problème.
Et vous pensez que c'est pour exclure
certains leaders congolais. Certains leaders congolais. De deux, quand vous allez au point 5 des conditions, parce qu'ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de problème, il y a encore toujours des problèmes. C'est pourquoi nous attendons. La procédure n'est pas finie. Le texte a été envoyé au chef de l'État et il a encore la possibilité de nous renvoyer pour x, y choses. Donc, ce n'est pas fini. Quand vous lisez le point 5, on dit avoir la qualité de lecteur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. De quoi nous parle-t-on? Encore l'identification intervient. Et puis, il y a la conjonction, le connecteur et enrôlé. Sommes-nous dans un système d'identification? Sommes-nous dans un... Si c'était l'enrôlement, on allait comprendre qu'ils ont oublié l'identification sur laquelle ils insistent dans l'article 8. Mais ça revient. Ici, ça revient clairement et ceci est posé dans toutes les conditions pour ce qui concerne les différentes critères qui seront organisées. Et donc, ça pose problème. Vous pouvez, si vous n'êtes pas averti que ce sont des concepts anodins qui ne valent absolument rien, mais ça dit ce que ça dit. On dit avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler. Donc, c'est cumulatif, les deux à la fois. Avoir la carte d'identification et avoir la carte d'électeur. Et pourtant, on dit à la CENI, non. Avec les données que vous avez, même si le recensement n'est pas fait ou pas, fini ou pas, nous allons aux élections. Maintenant, quand on conditionne, c'est-à-dire que chaque candidat doit avoir la carte d'identité, obligatoirement la carte d'identité et la carte d'électeur. Non. Ce sont des éléments qu'il faut mettre en exergue.
Alors, par rapport au vote des Congolais de l'étranger,
là, il n'y a pas un débat, c'est une option qu'ils ont levée. Je n'ai pas un problème avec les Congolais de l'étranger, ils sont des Congolais
comme nous. C'est quand même à saluer.
Non, ce sont des Congolais comme nous. Ils peuvent aussi exprimer leur vote, il n'y a pas un problème. Mais ceci, ça doit se faire dans la norme. Hein? Parce que dans notre pays, nous sommes limitrophes de 11 pays. Nous devons savoir, ces Congolais dont on nous parle, parce qu'ici, déjà, ils essaient de l'origine. Sont-ils aussi des Congolais d'origine? Ne sont-ils pas des Congolais d'origine? C'est tout ça les débats. Mais dans les gros, il y a encore des petits problèmes qui peuvent encore susciter des interrogations dans ces textes ici. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Donc, alors, vous pensez qu'il y a des pièges?
Oui, il y en a. Lui, il va me contredire, il y en a. Quand il parle du Sénat, au Sénat, il y a des... Mais le président Kengo a tiré la conséquence de ce qui s'est passé au Sénat. Chaque chambre est autonome. Est-ce que lui siège au Sénat, c'est ce qui s'est passé? Lui, il sait comment il a géré ses députés, ses sénateurs, pour qu'ils en arrivent là. N'est-ce pas? Mais nous, on ne nous a même pas accordé la possibilité. Nous avons dénoncé la question au niveau de la conférence des présidents. Honorable Nzekoui, ne bougez pas la tête parce que c'est ça la réalité. Quand ça n'allait pas, nous nous sommes adressés à nos présidents respectifs des groupes parlementaires. Ils sont allés en commission, disons, à la conférence des présidents. Ils ont dénoncé tout ce que nous voyons comme problème. L'honorable Sesanga, qui est l'initiateur du projet de loi, a été invité, n'étant pas membre, pour expliquer, n'est-ce pas, ses réserves par rapport à l'évolution de son projet. Il n'avait pas été entendu. Qu'est-ce que vous auriez aimé que nous...
Et donc, on ne vous a pas laissé le temps de vous exprimer, c'est ça?
Non! Déjà, en amont, dans la procédure parlementaire, lorsque la procédure dépasse la conférence des présidents, on amène en plénière. Donc là, c'est la loi de la majorité, il n'y a plus... C'est pour venir écraser systématiquement la minorité. Encore que là aussi, il faut nuancer.
Merci, Maître Mirindi, professeur. Il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Nantes, en France, il s'appelle Christophe Mamboléo. Il dit ceci: je salue le recul de la majorité présidentielle au sujet de la loi électorale qui a été votée, mais je note que les innovations qu'elles apportent ne sont pas significatives. J'estime que le cadre juridique existant n'est pas tout à fait mauvais, mais sur la caution, celle de 100 millions de francs congolais ne sera pas de nature à décourager les candidatures fantaisistes.
Oui, c'est vrai que la question de la caution va faire certainement réfléchir beaucoup de Congolais. Parce qu'en fait, quand on parle de la caution, ce problème de caution suppose également un autre problème. C'est celui du financement des partis politiques. Parce que finalement, ce sont des partis politiques qui vont réunir cette somme. Et quand vous regardez ailleurs, il y a des politiques, des financements de partis politiques. Alors, pour les partis politiques qui n'ont pas suffisamment, qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, c'est quand même très difficile de réunir cette somme. Et pour le parti politique qui ne sont pas associés à l'exercice du pouvoir au niveau local, c'est encore difficile. Alors, ce qui fait que cette loi, ou cette mesure, va avoir un coût politique assez grand vis-à-vis de certaines formations politiques. Et donc, il fallait non seulement résoudre la question de la caution, mais il fallait également aborder la question du financement de partis politiques. Et cette question est très difficile à être abordée dans la législation congolaise, étant donné le nombre... Un nombre qui fluctue chaque semaine, chaque mois des partis politiques. Et donc, aujourd'hui, réunir 100 000 dollars, je vous assure que pour certains partis, ce sera quand même très difficile. Elles sont obligées, ils seront obligés, je vais dire, de soutenir, de s'allier à certains partis pour soutenir les candidats. Ce qui est vrai, c'est que moi, je pense que par rapport à cette question de cautionnement de partis politiques, on a à la fois tort et à la fois raison. Il est difficile d'accuser uniquement ceux qui ont mis la barre à cette hauteur-là, parce qu'à un moment donné, avoir 45 candidats, on va dire que c'est quand même le pluralisme politique, mais il faut dire qu'à un moment donné, le bulletin électoral en RDC était plus qu'une innovation.
Alors, professeur, pour être candidat à la présidentielle, on doit avoir la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans, avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif et socio-économique. Est-ce que ce n'est pas exclure certaines personnes qui ont envie de se lancer dans la politique, qui ont envie de devenir député, le fait qu'on conditionne cela par une expérience d'au moins 5 ans?
Ce qui est vrai, c'est que chaque fois qu'on introduira des critères, les personnes n'entrant pas dans ces critères s'en trouveraient exclues. Ça, on ne s'en doute pas. Ce qui est vrai aussi, c'est que à un moment donné, il faut fixer des critères et se mettre d'accord. Ce qui n'est pas bon, et c'est ça, on revient chaque fois sur cela, c'est le fait que à tout moment, on change les règles. Non, il faut se mettre une fois pour toutes d'accord. Et se mettre d'accord veut dire que l'opposition et la majorité, au moins les acteurs, parce que ça c'est une loi très importante, c'est une loi sur la dévolution du pouvoir. Il faut que les deux parties, à mon avis, elles auraient pu s'entendre sur cette loi et dégager l'ensemble des problèmes sur lesquels, des questions sur lesquelles elles n'étaient pas d'accord. Il me semble que ça n'a pas été le cas.
Et donc il y aura toujours des suspicions par rapport à ce projet de loi. Déjà, Maître Mérine dit qu'il y a encore des problèmes par rapport à ce projet de loi. Il estime qu'il y a encore des pièges. On va revenir sur le recensement.
Le piège qu'il a noté, je crois que c'est une erreur au niveau des rédacteurs. Je ne sais pas si cette erreur n'a pas été corrigée, parce que s'il n'a pas été corrigé, elle va poser beaucoup de problèmes à la CENI. Parce que calculer, comment la CENI va-t-elle calculer le conseil électoral? Comment va-t-elle le faire? Il n'y a pas d'estimation de population sur toute l'étendue de la République. Et si, au moment d'organiser les élections législatives, il n'y a pas ces données, je vous assure que du point de vue de la CENI, ça va être un véritable problème.
Merci, professeur François Nzikouye. Il y a un auditeur qui nous a écrit pour dire que même si on demande les 100 millions, ce ne sera pas une façon de décourager les candidatures fantaisistes.
Je n'en sais rien. De toute façon, moi j'aime bien l'histoire. À l'issue des élections 2011, tout le monde a crié que ce n'était pas normal que nous ayons 19 000 candidats aux législatives et ça a compliqué le travail de la CENI. Nous étions unanimes à le dire. Aujourd'hui, on trouve que le fait d'avoir donné cette contrainte, c'est une mauvaise chose. C'est cela, en fait, l'ambiguïté congolaise. Nous disons une chose aujourd'hui et nous disons le contraire le lendemain. Mais je vais revenir sur l'exclusion à l'article 103 qu'a identifié Mérine. Ce n'est pas du tout une exclusion, je vous l'explique. L'alinéa 5 dit « avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature pour un président de la République ». Ça veut dire quoi? Celui qui n'avait pas sa carte d'électeur, qui n'était pas enrôlé avant, logiquement, on l'identifie avant de s'enrôler. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait 5 personnes pour prouver que vous êtes congolais pour avoir une carte d'électeur. À ce moment-là, on dit vous l'êtes, on vous donne la carte d'électeur parce que vous êtes enrôlé et vous pouvez participer. Parce que la condition sine qua non pour un candidat, c'est d'être enrôlé.
Alors, vous n'aurez pas besoin de la carte d'électeur et la...
Non, pour celui qui n'en a pas. Parce qu'ici, on dit avoir la carte d'électeur. Ça veut dire que si vous l'avez, vous êtes candidat, pas de problème. Mais au cas où vous décidez de vous présenter comme candidat président de la République et vous n'avez pas de carte d'électeur, vous faites quoi? On vous identifie comme tel et on vous délivre une carte. Ce n'a rien de compliqué au point qu'on dise non, on va identifier tous les Congolais. Non, un candidat
alors
président de la République, ce n'est pas chaque
François,
citoyen.
On va devoir
donc,
conclure.
En conclusion, je dis,
cette loi
était voulue par l'ensemble du peuple congolais, par tous ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça amène des innovations qui vont amener plus de transparence pour les futures élections.
Merci.
Et ne vont pas compromettre la démocratie dans notre pays.
Merci François Nzekouye. Grégoire Mirindi, conclusion.
Moi je crois que, pour conclure, je voudrais juste saluer le peuple congolais, en fait, qui a sauvé la situation. Je voudrais aussi saluer même certains collègues de la majorité, en fait, qui ont voté non pour ce texte. J'aimerais en même temps saluer la mémoire des Congolais tombés sur le champ de bataille pour leur République. Et je salue en même temps tous ceux ou celles, de près ou de loin, ont contribué pour que, en fait, nous puissions en arriver ici. Bien qu'il y ait des problèmes, nous pensons que les différents problèmes qui restent, il y a encore la possibilité de les corriger au niveau du président de la République. La procédure n'est pas clôturée. Il est encore possible qu'il ramène ce texte pour que, en fait, on puisse faire le toilettage et qu'on tienne compte de l'option qu'eux-mêmes ont levée, selon laquelle il y aura élection indépendamment de l'identification. Mais quand le mot identification intervient dans des articles, quand on dit le nombre total d'habitants pour calculer les quotients, ça nous inquiète. Parce que c'est donné d'une main, en fait, et récupéré d'une autre.
Merci, Maître Grégoire Mérindi, professeur. Un mot en guise de conclusion.
Ce que je peux dire, c'est que nos politiciens devront certainement faire très attention dans l'avenir, surtout quand on parle de loi. La loi, c'est la vision que tous les Congolais ont du lendemain. Que sera le lendemain du Congolais? Que sera le lendemain de la RDC? Il faudrait que ce lendemain se reflète à travers la loi. Et nous devons avoir de lois que nous méritons.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, Alain Irung, Berry Luchaka, sous la supervision de Julien Nyamouni. Merci à Jean-Claude Siala, qui était à la mise en onde de micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Rediffusion demain, 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.